8h, passé de 30 secondes sur France Culture. Le journal Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le nouveau procès Baupin semble s'être retourné contre l'ancien député écologiste accusé en 2015 par plusieurs femmes d'agression sexuelle et de harcèlement, des faits prescrits à l'époque. Il avait attaqué ensuite ces femmes et les médias qui avaient sorti l'affaire. La procureure a demandé hier la relaxe. Dans ce journal, nous entendrons la conclusion d'une historienne, Mathilde Larère. Et puis votre invitée, Caroline, est avocate pénaliste.
Oui, on lui demandera aussi, je pense, ce qu'elle pense de ce procès Baupin en tant qu'avocate pénaliste. Et puis nous lui parlerons aussi de la loi anti-casseurs, et puis nous commencerons par la question de la justice face aux revenants djihadistes. Marie Dosé est avec nous.
La République islamique d'Iran fête ses 40 ans d'existence ces jours-ci. Comment vit la population iranienne 40 ans après la révolution islamique? Reportage de nos envoyés spéciaux à Ispahan dans ce journal.
Des gilets jaunes français inspirent les Italiens.
Oui, une manifestation de gilets jaunes a lieu aujourd'hui à Rome. Précision avec Mathilde Imberti dans un instant.
Et puis vous vous pencherez sur une vente aux enchères qui soulève de nombreuses questions éthiques et historiques, Sophie.
Il s'agit de la vente prévue des aquarelles d'Hitler. Nous irons pour cela à Berlin à la fin de ce journal. La procureure a requis hier la relaxe pour l'ensemble des accusés de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la seconde affaire Denis Baupin, du nom de l'ancien député écologiste accusé dans un premier temps par plusieurs femmes d'agression sexuelle, des femmes qui faisaient partie d'Europe Écologie Les Verts en 2015, des faits prescrits par la loi qui avaient entraîné la fin des poursuites. Denis Baupin avait alors répliqué et attaqué ces femmes ainsi que plusieurs médias qui avaient sorti l'affaire, notamment France Inter. Et hier, à l'Assemblée nationale, se tenait la première journée de débat sur les femmes en politique et l'historienne Mathilde Larère en a fait la conclusion en s'appuyant sur un discours tenu dans l'hémicycle en 1792.
On est en octobre 92 à l'hôtel de ville et un député Chaumette est en train de justifier, en les termes qui vont suivre, la privation que les révolutionnaires faisaient d'un des rares droits politiques qu'ils avaient accepté de donner aux femmes à l'époque, à savoir le droit d'association. Je vous lis, vous allez voir, ça pique. L'enceinte où délibérèrent les magistrats du peuple doit être interdit à tout individu qui outrage la nature. Entendez, une femme qui veut faire de la politique. Depuis quand est-il permis d'abjurer son sexe? Depuis quand est-il décent de voir des femmes abandonner les soins pieux du ménage, le berceau des enfants, pour venir sur les places publiques, dans les tribunes, aux harangues, à la barre du Sénat? Femmes imprudentes qui voulaient devenir hommes. Mais que vous faut-il de plus? Est-ce aux hommes que la nature a confié les soins domestiques? Alors là, la meilleure, nous a-t-elle, il parle comme homme, donné des mamelles pour allaiter nos enfants? Vous voyez, le temps et le corps s'invitaient dès le début dans les débats et ils ont été utilisés pour exclure les femmes. Alors, évidemment, le temps a passé. Maintenant, il y a des femmes, on nous en a donné un certain nombre de pourcentages, on est censé se réjouir, et pour partie, on se réjouit un peu. Certes, les femmes ont mis le pied dans la porte, elles sont rentrées par effraction, mais ce qui est clair, c'est que les hommes restent au centre de la pièce, et que ça commence à être un peu gênant. Quand on regarde les temps de parole, c'était aussi très net, les différentes prises de parole ont montré que la parole des femmes est volée, coupée, parfois recouvertes des bruits des paroles des hommes. Quant à leur corps, bien leur corps, soit il est sursexualisé et effectivement parfois objet de violence. À l'heure où Baupin, heureusement d'accusateur, se retrouve accusé, il n'empêche qu'il a quand même osé poursuivre ces femmes en justice. C'est des cas extrêmes, absolument scandaleux et heureusement de plus en plus dénoncés. Mais en fait, ça cache et ça ne doit pas cacher un sexisme du quotidien qui est beaucoup plus présent et qui repose sur finalement des processus d'illégitimation permanente des femmes.
L'historienne Mathilde Larère hier à l'Assemblée nationale pour cette journée de débat. Mathilde Dosé, Marie Dosé, pardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris et l'invitée des matins du samedi. Vous êtes avec nous en direct ce matin. Alors, que pensez-vous de la demande de la procureure d'une relaxe de l'ensemble des anciennes plaignantes pour ces faits prescrits d'harcèlement sexuel et de violence sexuelle, agression sexuelle?
Ce sont des réquisitions qui sont finalement conformes à tout ce qui s'est passé tout au long de ce procès
Et c'est un drôle de procès que de voir finalement l'arroseur arroser. Moi, je ne comprends pas très bien comment est-ce qu'on a pu maintenir cette procédure en diffamation. C'est la violence du contentieux de la presse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la partie civile se retrouve sur le banc des prévenus. Dont acte, la motivation du parquet, c'était au départ, prescription certes, mais des faits pouvant probablement revêtir une qualification pénale. Pourquoi aller jusqu'au bout de cette procédure en diffamation ? Voilà, c'est tout.
Au niveau justement du droit pénal sur les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel, on étend de la loi par rapport à la prescription aujourd'hui ?
Alors, sur la prescription, il y a eu beaucoup d'évolutions et notamment très protectrices s'agissant des mineurs, avec des délais de prescription allongés de 10 à 20 ans à compter de la majorité. Donc, force est de constater tout de même qu'aujourd'hui, la parole des victimes est entendue et que de surcroît, il est possible de déposer plainte beaucoup plus longuement après sa majorité.
Et par rapport aux personnes qui ne sont pas mineures,
ah là, c'est aussi victimes éventuellement d'agressions et d'harcèlement sexuel. Voilà, c'est effectivement un peu plus court, mais moi je pense que la prescription c'est aussi une protection. C'est aussi une protection parce que quand on en arrive par exemple dans des affaires de viol à 30 ans après la majorité pouvoir déposer plainte, nécessairement la justice ne sera pas au rendez-vous.
Merci Marie Dauzet, vous restez bien sûr avec nous. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Vous serez donc, après ce journal, l'invitée de Caroline Brouet pour les matins du samedi. Autre affaire qui relève du pénal, celle de cette femme atteinte de troubles psychiatriques qui aurait mis le feu à l'immeuble du 16e arrondissement dans la nuit de lundi à mardi. Un incendie qui a fait 10 morts et 96 blessés. Cette femme a été mise en examen hier soir et placée en détention provisoire. En France, le domicile privé du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été en partie incendié. Un feu d'origine volontaire, selon les premiers éléments, dans le Finistère. L'ancien chef du groupe La République En Marche et proche du chef de l'État a dénoncé hier soir un acte grave et annoncé qu'il allait porter plainte. Sur Twitter, Emmanuel Macron lui a porté son soutien, expliquant par là « Rien ne légitime la violence ou l'intimidation à l'écart d'un élu de la République. Toute ma solidarité envers Richard Ferrand », selon les mots d'Emmanuel Macron.
En France, les Gilets jaunes manifestent pour le 13e week-end consécutif.
Le mouvement français a fait des émules et les échanges se multiplient entre les deux côtés des Alpes. Une manifestation nationale de Gilets jaunes est prévue aujourd'hui à Rome. Les précisions sur place de Mathilde Imberti.
Fin janvier déjà, un petit groupe de Gilets jaunes avait manifesté à Milan, la ville de la finance en Italie, se rendant devant le siège de la banque d'affaires Goldman Sachs. Ce samedi à Rome, les organisateurs de la première manifestation nationale attendent au bas mot 2000 participants, selon leurs projections venues de toute l'Italie. Ils réclament pêle-mêle l'Italexit, la sortie de l'Italie de l'Union européenne, la souveraineté monétaire, la nationalisation des autoroutes, l'expulsion des immigrés sans papier. Ils n'ont pas l'intention de se présenter aux élections européennes, évoluent hors parti et assure n'avoir pas de lien avec le mouvement 5 étoiles. Il condamne même la visite de Luigi Di Maio en France auprès des Gilets jaunes. Une récupération politique selon eux. Entre France et Italie, les échanges vont bon train. Hier à San Remo, une vingtaine de Gilets jaunes des deux pays se sont retrouvés pour échanger sur l'Europe des peuples. Et outre le rassemblement de Rome ce samedi, une autre manifestation est prévue à la frontière franco-italienne.
Mathilde Imberti à Rome pour France Culture. La révolution islamique d'Iran a eu lieu il y a 40 ans. De nombreuses commémorations se donnent aujourd'hui en Iran. C'est en février 1979 que l'ayatollah Khomeini a fait son retour là-bas après un exil de près de 14 ans en Irak puis en France pour devenir il y a 40 ans le premier guide de la République islamique après avoir chassé le Shah d'Iran soutenu à l'époque par Washington. Cet anniversaire intervient dans un contexte difficile pour le pays dont la population souffre très durement du rétablissement des sanctions américaines depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien l'an dernier. C'est un reportage à Ispahan de nos envoyés spéciaux Franck Madvon et Gilles Gallinaro dans le centre-ouest du pays.
Les allées du bazar d'Ispahan sont désertes. Ce n'est pas la pleine saison, mais les marchands l'assurent, les touristes sont de moins en moins nombreux.
Very frankly, not good.
Les affaires vont mal, dit Amir,
very bad.
Un vendeur de tapis persan. Le rial iranien a perdu en un an les deux tiers de sa valeur face au dollar.
We are in sanctions. We obstructed.
On est bloqué, on ne peut pas faire d'affaires.
Locked. Yeah, actually. This system's here. Visa, credit card.
Le système que vous voyez ici, Visa, Mastercard, tout ça ne marche plus, donc on ne peut rien vendre. Les transactions en dollars sont en effet interdites en raison des sanctions américaines et aucune entreprise européenne n'ose défier les États-Unis. Dans son atelier de gravure sur cuivre, Javad se lamente lui aussi. Notre métier est tel, dit-il, que nous devons être totalement connectés avec le monde. C'est notre seul moyen d'exporter nos produits artisanaux. En ce 40e anniversaire de la révolution islamique, Javad blâme les mafias qui se sont succédé au pouvoir et qui se sont enrichis sur le dos des Iraniens. L'ayatollah Khomeini promettait pourtant en 79 la richesse et la redistribution pour tous.
Franck Madvon et Gilles Gallinaro à Ispahan pour France Culture. La crise politique et humanitaire au Venezuela se poursuit avec d'un côté l'opposant Juan Guaido qui s'est autoproclamé président par intérim et de l'autre le président élu Nicolas Maduro qui refuse de quitter le pouvoir. Guaido a le soutien d'une quarantaine de pays dont les États-Unis et la France. Il n'a pas exclu une intervention militaire pour chasser du pouvoir son rival Nicolas Maduro. Alors que Donald Trump a annoncé cette nuit dans un tweet que son deuxième sommet avec Kim Jong-un se tiendra à Hanoï, la capitale du Vietnam, les 27 et 28 février prochains. Il s'agira donc du second sommet entre le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen, après celui ayant eu lieu à Singapour en juin dernier.
L'auteur du massacre de la Grande Mosquée du Québec a été condamné à 40 ans de prison.
Oui, ce jeune homme avait tué par balle 6 personnes en ouvrant le feu dans la mosquée un dimanche soir, 29 janvier 2017, et fait 5 blessés graves, aussi parmi les fidèles réunis pour prier alors. Décryptage de ce verdict avec notre correspondante au Canada, Pascal Garicola.
Le juge a reconstitué minute par minute les étapes de la tuerie qui a fauché la vie de 6 hommes ce dimanche soir de janvier. Un récit difficile à entendre pour les familles des victimes et les survivants présents dans la salle du tribunal. Le magistrat a pris aussi le temps de revenir sur les témoignages de ceux qui ont assisté au drame, les récits des veuves et des orphelins, ainsi que l'analyse des experts qui ont interrogé l'auteur de la tuerie. En vertu d'une loi votée il y a 8 ans au Canada, l'accusation lui suggérait de lui imposer 150 ans de prison. Une solution que rejette le juge. Selon lui, il faut traiter tout être humain avec dignité et respect. Conscient cependant de l'ampleur du crime, le juge condamne l'auteur de la tuerie à 40 ans de prison. Une sentence exemplaire puisque généralement les auteurs de meurtres peuvent faire une demande de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Ce verdict a pourtant déçu les survivants et les familles des victimes. Ils auraient aimé une sentence encore plus lourde.
Pascal Guéricola à Québec pour France Culture. La justice tunisienne a condamné 7 accusés à la prison à vie dans les procès des attentats du Bardo et de Sousse. Cette nuit, les verdicts sont tombés tard dans la nuit, après 4 ans après les faits. Au total, on se rappelle, 59 touristes ont été tués dans ces actes terroristes, parmi lesquels 4 Français. La justice tunisienne avait lié ces deux affaires. La plupart des prévenus l'étaient dans ces deux dossiers. D'autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 16 ans à 6 mois de prison, 27 accusés ont bénéficié d'un non-lieu. Ce devait être l'une des plus grandes ventes aux enchères de toiles et d'aquarelles signées Hitler. Mais la quasi-totalité des œuvres seraient des faux, signe quand même d'une forte demande. L'histoire d'un flop avec Nathalie Versieux à Berlin pour France Culture.
Une trentaine de tableaux et quelques objets ayant appartenu au dictateur, la maison de vente aux enchères Weidler à Nuremberg en Bavière s'attendait à une affluence record. Ce sera finalement un flop. 26 des 31 œuvres au catalogue de la vente sont soupçonnées d'être des faux et ont été saisies par la police. La maison Weidler devra se contenter de vendre 5 aquarelles signées du dictateur, une vente contestée près de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais légale. Les œuvres peintes ne présentent aucun des symboles nazis interdits par la Constitution allemande. Adolf Hitler avait un faible pour la peinture. Jeune homme avant la Première Guerre mondiale et dans les années 20, il avait même tenté en vain d'intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Ses talents artistiques ont toujours été jugés médiocres. Cela ne l'a pas empêché de continuer à peindre des toiles convenues, des natures mortes et surtout des aquarelles de paysages. Notamment. Régulièrement, des œuvres signées Hitler apparaissent sur le marché. En juin 2015, des aquarelles et des dessins s'étaient même vendus en Allemagne pour près de 400 000 euros. Mais bien des ventes aux enchères ont été stoppées au dernier moment, comme en janvier dernier à Berlin. Les œuvres s'étaient avérées, là encore, être des faux.
Nathalie Versieux, et un article à retrouver en une de notre site internet franceculture.fr, article signé Maxime Tellier. Le temps, alternance de soleil et d'éclaircies en majorité aujourd'hui, de la pluie en revanche le long de la frontière est et de la façade atlantique, de la brume le long des Pyrénées, de la neige sur le nord des Alpes ce matin. Les températures comprises entre 1 et 11 degrés avec 1 degré à Chambéry, 5 à Clermont-Ferrand, 7 à Paris et à Lyon, 9 degrés à Nice et jusqu'à 11 degrés à Biarritz et Ajaccio.